des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une nouvelle rencontre entre deux écrivains autour, cette fois, de l'histoire et de la capacité du roman à s'y inscrire pour en faire vibrer toutes les cordes, grincer tous les ressorts, en mettre à nu tous les rouages. On pourrait continuer comme ça longtemps, deux variations. En effet, aujourd'hui, sur les noces du roman et de l'histoire avec Victoria Mas, qui a publié l'un des romans les plus salués de cette rentrée littéraire, Le Bal des Folles. Chez Albin Michel, un texte qui nous plonge au cœur de cette prison pour femmes, avec ou sans guillemets à prison, qui était la salpêtrière à la fin du 19e siècle, sous le règne du célébrissime docteur Charcot, et la non moins remarquée et remarquable Brigitte Giraud, qui dans Jours de courage chez Flammarion, redonne vie à travers l'exposé d'un jeune homme, d'un jeune lycéen devant sa classe, redonne vie à Magnus Hirschfeld, médecin juif allemand, pionnier de l'étude en fait de la sexualité humaine sur des bases scientifiques, fondateur de l'Institut de sexologie à Berlin et pionnier aussi des mouvements de libération homosexuelle. Les idées de cet Einstein du sexe, comme le dit Livio, le jeune personnage du roman, furent soutenues à l'époque par Einstein, Zweig, Zola, Tolstoï, mais en 1933, ses travaux et les quelques 20 000 livres de sa bibliothèque ont été brûlés par les nazis. Lui-même est mort en exil en 1935. Deux invités idéales donc pour évoquer cette capacité qu'a la littérature à saisir ou à donner vie à des destins individuels, petites histoires ballottées par la grande et nous la donnant peut-être à relire de manière plus affûtée. Bonjour Victoria Mas.
Bonjour.
Le Bal des Folles, c'est votre premier roman. Il a obtenu le prix Renaudot des lycéens. Félicitations.
Merci.
Avec vous, nous sommes, comme je le disais, à la Salpêtrière en 1885, un hôpital qui enferme un certain nombre de personnages féminins, soignés par le célèbre Charcot, véritable star de l'établissement, mais aussi son élève Gilles de la Tourette, qui donnera son nom aux symptômes du même nom. Un lieu où, écrivez-vous crûment, mais nécessairement, on mettait ce que Paris ne savait pas gérer, les malades et les femmes. Parmi ces personnages, Eugénie, une fille de bonne famille extrêmement indépendante, passionnée par les esprits et les livres d'Alan Kardec, le codificateur du spiritisme, et qui va se retrouver, à cause de ses dons, car elle a des dons, internée par son père à la Salpêtrière. Alors quel don ? Elle voit les morts et les morts lui parlent, dont insupportable pour son père qui y voit l'œuvre du diable. Il y a aussi Geneviève, l'infirmière, hantée, elle, par un autre mort, une morte, en fait, sa jeune sœur, que précisément Eugénie voit et entend. Elles sont donc faites pour s'allier dans cet enfer qui se donne des allures de normalité, notamment au moment de l'organisation du Bal des Folles, l'événement qui électrise le tout Paris qui chante et qui danse. C'est l'événement qui sert de titre à votre roman. Il a réellement existé, ce bal de la mi-carême, donné à la Salpêtrière où quelques curieux clairement voyeuristes se mêlent le temps d'une soirée festive aux patientes du docteur, excités par la proximité avec ses aliénés dont la folie réelle ou supposer les érotise. Alors est-ce que Eugénie s'échappera de ce bagne urbain? En tout cas, c'est ce qu'elle a décidé. Est-ce que Geneviève fera la paix avec son fantôme? Et que se passe-t-il pour Louise, autre personnage, et tant d'autres que nous fréquentons grâce à vous? C'est tout l'objet de ce livre, très réussi, dont on tourne les pages avec impatience et heureux vraiment de découvrir toutes les données historiques précises que vous y avez mis, et aussi la grande part de fantastique et de féminisme. Est-ce qu'il y avait chez vous, Victoria Mas, quand vous avez entrepris d'écrire ce roman, la volonté de rendre justice à ces femmes qui, derrière l'alibi en fait de la déraison, ont été psychiquement mutilées en fait par des familles abusives et surtout des jeunes femmes qui étaient moins psychopathes que gênantes, et à commencer par leur liberté.
Tout à fait. C'est vrai que quand j'ai appris l'existence en fait de ces femmes dont on ignorait en fait pratiquement tout. On a beaucoup entendu parler du docteur Charcot, mais on a très peu parlé au final des femmes qui lui ont permis d'avancer dans ses travaux. Et lorsque j'ai commencé mes recherches et que je suis tombée notamment sur toutes ces photographies en fait de femmes d'époque, mais anonymes, sans nom, je voulais vraiment savoir qui elles étaient et surtout parler d'elles. Donc je me suis sentie investie d'une grande responsabilité d'écrire au mieux cette époque, d'aller au plus près de ce que vivaient ces femmes et de qui elles étaient, et de les réhabiliter un petit peu, de leur donner une voix, une identité au travers d'un roman.
Ce sont des femmes qui gênaient leur famille.
Tout à fait. Pour la majorité d'entre elles, en fait, c'était plus un internement de confort qu'un internement nécessaire. Certaines souffraient véritablement de pathologies lourdes, mais pour la plupart, elles étaient juste trop quelque chose, c'est-à-dire trop mélancoliques ou au contraire trop émancipées. Et voilà, la morale l'emporte sur la filiation, donc qu'importe que ce soit une fille, une mère ou une épouse, si elle gêne, il faut l'enfermer.
Brigitte Giraud, d'ailleurs, on en parlera, parce que vous aussi, vous avez travaillé à partir de photos, aussi pour ce livre. Alors, c'est pas la liberté, enfin, c'est la liberté d'ailleurs qui guide non pas le peuple, mais votre héros, votre jeune héros Livio, dans votre nouveau roman, donc Jour de courage chez Flammarion. Donc, bonjour.
Bonjour.
C'est un roman où le passé, lui aussi, ressurgit, mais cette fois dans une salle de classe aujourd'hui, dans la banlieue lyonnaise, lors d'un exposé qui est fait au tableau par un jeune homme qui va se servir, en fait, de l'histoire pour lui donner toute sa présence. Je rappelle, Brigitte Giraud, que vous avez reçu en 2009 le prix Jean Giono pour Une année étrangère, c'était chez Stock, et qu'en 2017, vous avez fait paraître un autre livre, Un loup pour l'homme, où vous vous penchiez déjà sur un fait historique saillant. Il s'agissait de la guerre, il s'agissait d'un homme, Antoine, appelé, comme on dit, pour l'Algérie, au printemps 1960. Cette fois, l'action se situe, je le disais, aujourd'hui, en 2019, dans une salle de classe où Livio, donc, livre un exposé à ses camarades. Et c'est vrai que rarement on a suivi un exposé d'élèves en étant dans un état à la fois haletant, parce que vous faites parler à la fois, effectivement, on entend sa voix, mais on voit son corps. Il y a toutes les réactions aussi des personnages, de l'auditoire, de la prof qui est au fond de la classe, Madame Martel. Et alors, de quoi parle-t-il, Livio? Eh bien, il parle du nazisme, en fait. Ça commence, il faut qu'il parle d'un auto-da-fé, puisqu'ils sont en train d'étudier le nazisme. Et en fait, il va faire ressurgir le souvenir d'un médecin juif qui s'appelait Magnus Hirschfeld, qui a été donc un pionnier, je le disais, de la sexologie, qui a lutté pour l'égalité homme-femme, pour les droits des homosexuels au début du XXe siècle. Et en fait, dans cette classe, grâce à l'histoire et grâce aux mots de Livio, chacun est bousculé dans ses certitudes, forcé aussi de sa zone de confort. Vous parliez du confort, Victoria Mas, des internements de confort. Pas seulement les élèves, mais aussi la professeure ou Camille, qui est cette, on va dire, sa meilleure amie, un petit peu amoureuse de lui, et qui comprend peu à peu, à mesure que l'exposé se déroule et à mesure que ce jeune homme s'enflamme en parlant de ce destin de Magnus Hirschfeld et de la question homosexuelle, qu'elle s'est trompée sur lui et sur son désir à lui. Alors c'est un huis clos, et l'incursion de l'histoire dans ce huis clos, dans le présent, va condenser, va cristalliser un certain nombre d'enjeux psychologiques, érotiques, électriser les rapports entre les êtres aussi, ceux qui parlent, ceux qui écoutent, comme si l'histoire était vraiment dépositaire de charges explosives pour ceux qui vivent après les événements qu'elle convoque. Est-ce que c'est votre conception de l'histoire, encore porteuse de charges, d'explosifs pour ceux qui la convoquent, même des décennies plus tard?
Je dirais presque même surtout des décennies plus tard, parce qu'il n'échappe à personne qu'on vit une période qui nous rappelle étrangement ce qu'ont pu vivre les personnes au début du siècle dernier, notamment pendant les années 20 et 30, c'est-à-dire avec un repli moral, avec quelque chose qui est à l'œuvre, qui est extrêmement effrayant. Donc je voulais pas y aller directement, je voulais pas convoquer directement ces années 30 pour ne pas paraître ni grossière, ni... Enfin, je voulais pas tirer ce fil-là, mais en même temps, si je ne me suis pas contentée de faire une biographie de Magnus Hirschfeld, mais si j'ai situé l'action aujourd'hui, en 2019, dans une salle de classe, c'est que la question que pose le livre, une des questions importantes, c'était de savoir comment on transmet l'histoire, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et comment on la transmet à une génération qui a l'impression d'être extrêmement éloignée, qui a même l'impression de ne pas être concernée par ce qui s'est passé un siècle plus tôt. La création de l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld date de 1919, il y a pile un siècle, et on a l'impression qu'à ce moment-là, il y a eu une ouverture assez grande pendant les années 20, notamment à Berlin, en France également, avec la possibilité d'être différent, la possibilité des cabarets.
Beaucoup d'avant-garde.
Beaucoup d'avant-garde artistique, l'expressionnisme, etc. Et on a vu quel type de repli s'est opéré très rapidement. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on avance vers quelque chose qui est assez effrayant, notamment en Europe, mais dans d'autres pays
du monde.
Pensez
à quoi précisément, vous avez dit?
Alors, je pense à un repli de l'ordre moral, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez effrayant de ce point de vue-là. Le livre vient aussi après les années où il y a une loi qui a été votée en France, qui s'appelle la loi pour le mariage pour tous, qui a déclenché dans la rue des manifestations de plus en plus musclées, de plus en plus violentes, qui s'appelaient les manifs pour tous et qui nous ont montré qu'on était face à une société qui n'entendait pas se laisser aller vers une ouverture de façon aussi simple que cela. Donc c'est quelque chose qui a généré dans notre époque une violence, comme je disais, à laquelle, en tout cas, moi je ne m'attendais pas. Donc le livre vient de tout un tas de choses, notamment de recherches autour des autodafés, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment il faut brûler des livres, qu'est-ce qui fait qu'à un moment la pensée, la langue, la littérature non conforme est quelque chose qu'il faut supprimer, qu'il faut cacher, comme les folles dans le roman de Victoria, qu'est-ce qui fait que ça gêne? Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les premiers autodafés du 21e siècle ont été commis en Pologne. Des prêtres ont brûlé des exemplaires de Harry Potter, de Twilight, ainsi que des masques africains, ainsi que des objets hindous. Pendant cet été, des livres ont été brûlés en Turquie, d'opposants de Erdogan, et cette semaine ont été brûlés en Chine par des bibliothécaires qu'on pourrait appeler municipaux, enfin l'équivalent n'est pas le mot municipal, mais des exemplaires de livres dont l'idéologie ne convient pas. Ce qui veut dire, si on reprend la phrase de Heinrich Heine, là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes, ça veut dire qu'on est à nouveau en marche vers ce type de bûcher possible.
Vous partagez, Victoria Mas, cette inquiétude dont parle Brigitte Giraud?
Je partage et je pense aussi en fait à toutes les destructions qui ont été opérées par l'État islamique, également de tous les objets appartenant au patrimoine culturel d'Irak, de Syrie, de Libye, ou la destruction de certains sites historiques, parce que en fait le meilleur moyen d'endoctriner, c'est d'effacer le passé, d'effacer la culture, d'effacer d'où on vient, en fait avoir faire table rase en fait pour insérer les idées qu'on veut en fait auprès des nouvelles générations. Donc c'est l'histoire est un cycle qui se répète, hein. L'autodafé sous l'Allemagne nazie, on le retrouve encore aujourd'hui au travers de tous les exemples que vous avez cités. C'est malheureux, mais c'est important de rester attentif.
En même temps, vous qui parlez, alors là, bon, Magnus Hirschfeld est un homme, mais il parle du désir aussi homosexuel. Dans le bal des folles, il est question plutôt de femmes, hein, qui sont opprimées, enfermées par les hommes. Sur une simple décision d'un père de famille, il laisse, et si on soigne pas, il le dit d'ailleurs, c'est le père de Génie qui dit, si vous la soignez pas, de toute façon, elle n'a pas à être soignée. De toute façon, je la laisse là. Vous ne trouvez pas quand même qu'il y a un certain, justement, avec votre regard de romancière, mais un certain progrès dans la façon dont la parole, justement, féminine se libère aujourd'hui? Et vous êtes d'ailleurs les exemples en tant qu'écrivain femme aussi. On a même l'impression que mille fleurs s'épanouissent. Là, je reprends les termes chinois. Vous parliez des autodafés en Chine, mais aussi une libération plutôt qu'un renfermement.
Oui,
une éclosion
sûr.
De la parole, enfin, des choses qui ne se disaient pas avant et qui se disent enfin.
Oui, heureusement qu'il y a aussi des améliorations, évidemment, pour comparer la situation des femmes en 1885 à celle d'aujourd'hui. Et évidemment que vous parlez de la parole. Par exemple, à l'époque, les violences que subissaient ces femmes, il n'y avait même pas l'idée en fait de dénoncer ces violences. On pouvait pas. Il y avait une banalisation en fait des actes de viol, de maltraitance qui, pour les femmes, en fait, étaient intégrées en fait. Aujourd'hui, évidemment, et heureusement, ce n'est plus le cas.
Vous le dites d'ailleurs dans votre roman, même l'infirmière, le personnage de l'infirmière, se refuse à considérer ses patientes comme des femmes dignes d'être aimées, d'avoir des enfants, dignes de ressentir.
Et la façon dont on voyait ces femmes, en fait, c'est le vocabulaire qu'on utilise est très parlant, puisqu'on les appelait soit folles, soit aliénées. Donc déjà, ça les mettait dans une case et dans une identité dont elles ne pouvaient pas se sortir. Et je pense qu'il y avait, de la part des infirmières justement qui soignaient ces femmes, une volonté de ne pas trop les toucher, de ne pas trop les approcher, comme si la folie était contagieuse. Donc il y avait vraiment une stigmatisation de ces femmes qu'on n'arrivait pas à comprendre, en fait, qui était très marquée.
Et une érotisation aussi, parce elles deviennent paradoxalement objet de désir, enfin d'un désir, disons, marginal, par ces hommes qui viennent, ces hommes bourgeois, nos sœurs, qui viennent contempler l'hystérie, par les crises d'hystérie. Elles sont aussi décrites dans votre livre comme des monstresses sexuelles. Parfois, on vient voir ça, ce désir à l'œuvre.
Oui, ce qui dégoûte peut attirer à la fois. Je pense que c'est très remarquable, notamment lors des cours publics de Charcot, où ces femmes étaient mises sous hypnose. ménopause, à partir du moment où on avait 300-400 hommes qui venaient regarder ces femmes dans des crises d'hystérie qui parfois ressemblaient plus à un orgasme en fait qu'autre chose, dans des nuisettes, il y avait évidemment une érotisation de leur corps en fait. Ce que je trouve très ironique, c'est de mettre ces femmes sous hypnose pour leur faire faire ce qu'on voulait aussi. Je trouve ça un peu drôle.
Oui, la question du désir est très présente hein, d'ailleurs dans vos deux livres. Victoria Mas disait, Brigitte Giraud tout à l'heure, qu'elle se sentait prête, je ne sais pas si c'était votre expression, mais un devoir ou une mission par rapport justement à cette histoire que vous véhiculez, que vous nous donnez aussi à voir, à ressentir, parce que le bal des folles, on ne connaissait pas forcément. Et puis le fonctionnement de la Salpêtrière... voilà, le roman est aussi un véhicule qui permet de porter à la connaissance d'un grand nombre, un certain nombre de réalités qui n'étaient pas cachées, mais qui étaient du moins mal connues. Est-ce que vous sentez ce même devoir, cette même mission, Brigitte Giraud, quand vous nous parlez de ce Magnus Hirschfeld, qu'on connaît mal aussi ?
Qui a été oublié parce qu'à l'époque, dans les années 20, il y avait quand même un trio d'hommes de tête, si on peut dire, en Allemagne. C'était Einstein, c'était Freud et c'était Hirschfeld. Donc autant Einstein et Freud sont toujours fêtés et copieusement fêtés, autant Hirschfeld a été oublié et passé sous silence. Et je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi, mais j'ai évidemment déjà ma petite idée. Forcément, moralement, c'est quand même compliqué. Quelqu'un qui a vraiment œuvré pour... en fait, il a essayé de prouver d'une façon scientifique que l'homosexualité n'était ni une maladie, ni un vice, ni un crime. Et il a essayé de faire en sorte que soit abrogé le paragraphe 175 voilà. du code pénal allemand qui pénalisait et qui criminalisait l'homosexualité et qui a été celui qui a permis ensuite aux nazis d'emprisonner et de déporter plus de 10 000 homosexuels qui, comme vous le savez, ont porté le triangle rose. Mais par rapport à cette mission, moi je ne me sentais pas une mission. Je me suis d'abord sentie donc j'ai découvert cet homme que je ne connaissais pas il y a encore 5 ou 6 ans, hein, si je suis honnête. Je l'ai découvert en faisant des recherches sur les autodafés nazis. Ce qui m'intéressait au départ, c'était l'idée de l'autodafé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec une question qui est une question très naïve, mais pourquoi pas être naïf dans son questionnement face à l'histoire, c'est de se dire pourquoi les Allemands qui avaient sous les yeux absolument tous les éléments et les preuves que le pire allait arriver, c'est-à-dire quand on fait des cérémonies et qu'on brûle des livres sur des places publiques, on se doute bien que le pire est à l'œuvre. Comment se fait-il qu'ils n'ont malgré tout pas pu empêcher ce qui allait venir ? C'est une question qu'on peut se poser nous aujourd'hui, jusqu'où on est prêt à aller pour accepter ce qui se passe, ce qu'on entend et comment on lutte, qu'est-ce que la résistance véritable ? Et ce qui m'a intéressé chez Magnus Hirschfeld, c'est que ça a été un résistant jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est allé très très loin. Il a monté son institut, il a rassemblé un comité scientifique. Il a travaillé avec des intellectuels, il a réuni une grande pétition pour faire abroger le paragraphe 175. Ensuite, il a donné des conférences dans le monde entier. C'était pas un hurluberlu qui était un illuminé dans un coin, c'était vraiment quelqu'un qui faisait autorité à l'époque. C'est quelqu'un qui a une œuvre scientifique extrêmement intéressante. Il est publié dans le monde entier et en France aux prestigieuses éditions Gallimard, ce qui est quand même pas rien. Et il a été passé plusieurs fois à tabac. Les gens qui venaient à ces conférences ont été parfois fusillés. Enfin, ça a été assez terrible. Il y a eu des fusillades, ce qu'on appellerait, il y a eu des attentats. Il est parti en exil. Il est mort en France, à Nice, 2 ans après son exil qui date de 33. Et la France avait, vis-à-vis de lui, lui avait fait une promesse. En fait, la France et la ville de Paris lui avaient promis, une fois que l'institut a été pillé et brûlé le 6 mai 33, de reconstruire l'institut à Paris. Promesse qui n'a pas pu être tenue puisque la guerre a éclaté. Et je suis en train de me dire aujourd'hui que, de façon très modeste à mon échelle, en écrivant un livre, c'est une façon aussi de lui redonner visibilité et de replacer les recherches et le combat et la façon de résister de Hirschfeld, peut-être, au cœur de nos interrogations sur le monde contemporain.
Ça répare un peu
à ma petite échelle. L'oubli. Mais voilà, c'est une façon de redonner vie à quelqu'un qui a été un résistant jusqu'au bout. Et ce n'est pas rien, ce mot, résister.
On va voir aussi si vous réparez l'oubli, Victoria Mas. On va continuer avec vous et nous aventurer un peu plus en profondeur dans votre livre. On est là pour une heure. Le bal des folles chez Albin Michel et Jour de courage avec Brigitte Giraud chez Flammarion. On écoute votre choix musical d'abord, Victoria Mas. Vous avez choisi Étude de... Alors, quelle est ça ?
De Jop Beving.
Voilà. Et c'est un titre que vous...
C'est un pianiste contemporain dont j'ai écouté l'album en boucle en écrivant Le Bal des Folles parce que je trouvais que ça correspondait parfaitement au sentiment que je voulais donner au livre et à l'atmosphère de ce Paris de fin 19e. Et je trouve aussi que c'est un grand compositeur, un grand mélodiste qui habite chacune de ses compositions. Donc je le recommande à tout le monde.
On écoute. Voilà.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Beving, Étude, c'est un extrait de l'album Solipsisme d'ailleurs. Et c'est votre choix musical, Victoria Mas. Vous publiez Le Bal des Folles chez Albin Michel. Et on vous a réuni avec Brigitte Giraud qui publie Jour de courage chez Flammarion. Le Bal des Folles, c'est chez Albin Michel. Alors vous nous disiez, vous avez beaucoup écouté ce titre en écrivant.
Ce titre et les autres de l'album Solipsisme. Ouais. Oui.
Vous écrivez donc en écoutant de la musique. Beaucoup d'écrivains nous disent, mais non, quand on écrit, on peut pas, parce qu'on a notre propre musique et on veut pas qu'une autre musique entre en compétition ou nous fasse perdre la maîtrise de notre propre musique. C'est pas votre cas, vous?
Je comprends, je l'avais pas fait jusqu'ici, mais je trouvais que, au contraire, là, c'était un beau mariage et une façon d'amener aussi des sentiments et des phrases que je n'aurais peut-être pas eu de moi-même. Après, je pense que ce serait un peu plus dérangeant si quelqu'un chantait aussi. Là, c'est juste du piano, donc ça suffit, mais ça s'harmonise assez bien.
Brigitte Giraud, vous écrivez en musique aussi, non?
Non, j'écoute beaucoup de musique, mais jamais pendant l'écriture, pour les raisons que vous évoquiez, parce que
même sans parole.
Même sans parole, parce qu'il faut trouver son propre rythme, et parfois c'est très difficile de trouver le propre rythme d'un livre, et la musique pourrait m'en éloigner. Il y a juste un livre pour lequel j'ai vraiment écouté, c'était Une année étrangère, parce que je voulais écrire une page sur 17 secondes de The Cure. Parce que la fille qui écrivait à son grand frère avait un lien avec cette musique-là, et j'ai essayé de voir comment on peut écrire sur ce que procure la musique en soi, profondément, et c'est quasiment impossible.
Et alors, Victoria Mas, pourquoi ce titre-là résonnait avec les sentiments dont vous parliez, que vous vouliez faire advenir pour ce livre-là?
Je pense que ça m'a permis de faire venir petit à petit ce Paris d'époque aussi. Je me nourrissais beaucoup d'images et de photographies, d'illustrations d'un Paris de 1885 pour me remettre autant que possible dans cette époque, dans ce lieu avec ses pavés, ses fiacres, ses silhouettes assez particulières. C'est très romanesque, c'est très visuel le 19e siècle. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans les notes qui... qui collait parfaitement et qui m'a inspirée. Aujourd'hui, quand je réécoute cet album, je suis immédiatement replongée dans la Salpêtrière avec je vois Geneviève, je vois Eugénie. Donc ça m'a influencée au début et maintenant c'est le livre qui a pris possession de cet album. Enfin, c'est indissociable.
Donc ce livre, c'est Le Bal des Folles, hein, le nom que la bourgeoisie parisienne de cette fin du XIXe siècle donnait au bal de la mi-carême organisé donc par les autorités de la Salpêtrière et qui permettait à quelques curieux clairement voyeuristes hein, de se mêler le temps d'un soir aux aliénés, donc aux patientes hein, du docteur Charcot, parce que c'est l'époque. D'ailleurs, Charcot et Freud, on en parlait, ils se sont côtoyés.
Charcot fut le maître de Freud, oui.
Voilà. Alors on le voit pas, hein, c'est encore trop tôt. Hein,
c'est encore trop tôt.
Voilà,
ouais.
Dans votre livre en tout cas. C'est un roman qui nous plonge vraiment, vous disiez le 19e siècle est très visuel. Votre livre hein, est très visuel, vraiment on sent quand on suit par exemple le personnage de Génie qui se rend à pied au quartier latin, ça dans la librairie Spirit, pour essayer de comprendre aussi par les livres peut-être ce qui lui arrive. Et en tout cas, on sent vraiment voilà la matérialité des pavés, les costumes aussi, et qui nous plonge dans la réalité médicale aussi. On parlait de Hirschfeld et c'est vrai que vos deux livres sont imprégnés aussi par cette science, par cet esprit pionnier hein, aussi de la médecine, l'idée aussi d'un progrès, puisque c'est ça qui motivait aussi Charcot, nous plonge aussi dans le quotidien de ces enfermés, donc je disais tout à l'heure, moins folles que gênantes pour la société patriarcale qui les a enfermés à la Salpêtrière, des maris ou des pères tout puissants. Et je rappelais en introduction de l'émission cette expression, cette phrase très courte mais qui dit beaucoup de choses. La Salpêtrière enfermait ce que Paris ne savait pas gérer, les malades et les femmes, donc mises sur le même plan. Parmi ces personnages, Eugénie, donc la fille bourgeoise, extrêmement indépendante en fait, a priori très épanouie, sauf qu'elle, c'est pas qu'elle entend des voix, mais elle voit les morts, en fait. Et les morts lui parlent. Alors évidemment, dans une famille un petit peu conservatrice, ça pose problème. Elle va essayer de se rapprocher, en fait, des disciples d'Allan Kardec, hein, donc le père du spiritisme, dont parlait beaucoup Huysmans, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a Geneviève, donc l'infirmière, a priori très, très rationaliste, qui refuse même de considérer ses patientes comme des femmes qui peuvent être aimées, à qui on peut parler d'autre chose que de leur maladie. Geneviève, elle a aussi non pas un don mais une activité curieuse. Elle écrit à sa sœur morte des lettres donc qu'elle n'envoie jamais, une sorte de journal à destination de quelqu'un d'autre qu'elle. Et évidemment, bah, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire que celle qui a des dons bah, va entendre la jeune sœur qui s'appelle Blandine. Il va voir Blandine et évidemment, cela désarçonne un peu Geneviève. Les enjeux narratifs sont posés très clairement, c'est-à-dire que certaines se sentent condamnées et d'autres, comme Eugénie, j'aime beaucoup Eugénie, a décidé d'en sortir, coûte que coûte. Et cet événement hein, qui sert de titre à votre roman, ce bal des folles, va servir de porte, peut-être, pour elle. Ce qui est étonnant, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes beaucoup documenté. Ce bal des folles, c'est pas qu'il était inconnu, mais vous en avez appris l'existence. Comment Brigitte Giraud tout à l'heure disait, c'est les autodafés qui l'ont mené à Magnus Hirschfeld. Vous, qu'est-ce qui vous a mené à ce bal des folles?
C'est une visite à la Salpêtrière il y a 2 ans où j'accompagnais en fait quelqu'un qui avait rendez-vous là-bas et en me baladant et en observant vraiment les bâtiments, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est la Pitié Salpêtrière, il y a des bâtiments plus modernes, mais vraiment les bâtiments qui datent du XVIIe siècle ont retenu toute mon attention et je me suis dit qu'il avait dû se passer pas mal de choses derrière.
Vous avez entendu, vous aussi, vous avez vu des choses.
J'ai ressenti que c'était un lieu en effet chargé, mais je ne suis pas la seule, d'autres gens sont venus me dire qu'ils avaient eu le même ressenti. Et donc, pareil, juste en m'intéressant à l'histoire de cet hôpital, je suis tombée sur ce bal des folles. J'ai dû vérifier par 2 fois au début, parce que je pensais que j'avais mal compris ou que je lisais mal. J'avais du mal à me dire qu'en effet, déjà, cet hôpital qu'on connaît aujourd'hui était auparavant un asile pour femmes, mais que ces femmes-là, chaque année, étaient exhibées aux yeux d'un Paris mondain. J'ai ressenti beaucoup de peine, en fait. Mmh. Et de là, comment lâcher, en fait, cette découverte-là? D'autant que quand j'en parlais autour de moi, c'était vraiment la surprise générale. Mmh. Et donc, en fait, ce bal avait vraiment eu lieu pendant 1 20aine d'années. Peu de temps après l'arrivée de
Il y a des photos de ce bal?
Alors, il y a des illustrations. J'ai trouvé une seule photographie qui date de 1903, en fait, où on a 20aine ou 30aine, en fait, de femmes costumées assises qui posent, en fait, dans l'une des cours de l'hospice de la Salpêtrière. C'est la seule photographie qui existe. Mais après, c'est vrai qu'il s'est fait oublier au cours des décennies suivantes, jusqu'à être vraiment quelque chose de méconnu. Donc, c'est pas impossible de trouver des choses dessus, mais après, le contenu est un peu réduit. Donc, j'ai vraiment dû creuser.
C'est votre premier roman. Il y a eu d'autres textes avant ?
Il y a eu d'autres textes auparavant, mais c'était plus de l'autofiction. Ce qui a changé là, c'est que j'ai commencé à écrire sur les autres et j'ai cessé d'écrire sur moi, en fait. Et
quand on se documente comme ça, qu'on fait des recherches, qu'on fait appel à une documentation importante, que ce soit des textes, des photos, à quel moment on se dit qu'il faut s'éloigner de cette matière ? À quel moment on estime qu'on a assez d'éléments pour s'aventurer, justement, dans le romanesque ? Et quelle est la part de romanesque et d'historique ? Comment vous avez fait le dosage ? Qu'est-ce que vous êtes autorisé aussi ? D'abord sur le moment, quand est-ce qu'on sait qu'il faut se lancer, qu'il faut arrêter de se documenter ?
Je voulais comprendre le décor, je voulais comprendre l'arrière-plan, je voulais comprendre ce qui se passait au sein de la Salpêtrière, c'est-à-dire dans quelle ambiance on internait ces femmes, quelles étaient les méthodes de traitement qu'on utilisait, qu'est-ce que Charcot faisait exactement pour les soigner, pour les ausculter. Et une fois que j'avais bien compris tout ça, je savais qu'il fallait que je passe aux personnages. Pour moi, les personnages sont le pilier fondamental d'une histoire. Et j'avais pas en tête l'idée de raconter l'histoire véridique en fait d'une femme en particulier. Je voulais que chaque personnage soit vraiment fictif, ce qui me permettait d'aller très loin et d'avoir autant de marge de manœuvre que possible au niveau de la narration.
Donc, et vous les avez choisies comment en fait ? Elles ont des modèles, Eugénie, Louise ou la prostituée qui a poussé son souteneur dans la scène et qui tricote. Comment vous les avez choisies, inventées ?
J'ai pu trouver pas mal de portraits de femmes qui avaient réellement été internées à Salpêtrière, mais c'était très disparate. Je trouvais un nom, un âge, je trouvais des symptômes ou des pathologies, donc j'ai vraiment brodé autour de tout ça. Mais non, je savais déjà que le personnage qui serait le point de départ, ce serait cette intendante, que j'aurais un personnage qui arriverait de l'extérieur qui viendrait tout chambouler. Louise, c'était facile puisque elle était très inspirée d'Augustine. Et Thérèse permettait d'amener un autre point de vue, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas sortir de cet hôpital. Cet hôpital a pu soigner des femmes aussi, tout n'était pas noir et il protégeait, en fait, c'est du moins pas mal de femmes, en fait, de la violence du monde extérieur. Certaines préféraient y rester.
En fait. On a parfois l'impression, c'est pour ça que je vous demandais quelle liberté aussi vous avez pris avec l'histoire. Charcot est assez peu évoqué, au fond, il est là, il règne, on sent qu'il est là, tout le monde en parle, mais il est assez peu évoqué par l'auteur que vous êtes, sinon pour son ingratitude envers justement la fidèle Geneviève et le fait qu'il soit présenté comme insensible par rapport à ses patientes. Alors que quand même, dans l'histoire, on sait que ces études ont permis notamment de découvrir que l'hystérie n'était pas l'apanage des femmes, en fait, seulement des femmes. Est-ce que vous ne l'avez pas noirci ?
Je me suis renseignée au plus près aussi de sa personnalité, pas seulement la vie et l'œuvre de cet homme, mais ce qu'il dégageait en public. J'ai trouvé des écrits qui parlaient de lui comme quelqu'un de très autoritaire, on le comparait beaucoup à Napoléon. Et je voulais aussi parler de lui du point de vue des femmes, c'est-à-dire que l'idée n'était pas de centrer le roman du tout autour de Charcot, mais de le voir aussi, c'est pour ça qu'il reste au final assez lointain, parce que les femmes le voyaient très très peu, il passait pas tous les jours dans le secteur des hystériques, donc ça alimentait aussi cette mystique autour de lui, cette figure d'autorité et de charisme qu'il avait et dont il avait connaissance. Après, c'est pas du tout un roman à charge contre Charcot, et également parce qu'il a existé, je pouvais pas me permettre de prendre trop de liberté avec lui. La seule scène, au final, c'est avec Geneviève où je me suis permis de lui faire dire des choses qu'il, je sais pas s'il aurait dit ces propos-là, mais je me suis dit au plus près de ce que j'ai pu trouver sur lui et de ce qu'il me semblait incarner, ça me semble être cohérent et pertinent. Mais je voulais parler des femmes avant tout, c'est pour ça que je le mets un peu de côté.
Je voudrais qu'on vous entende lire, Victoria Mas, un extrait. Alors c'est intéressant, l'extrait, j'aurais pu en choisir plusieurs, mais celui-ci parle de littérature à l'intérieur du roman. Et le rapport justement du roman, peut-être au corps, d'ailleurs en tout cas le roman qui, on le sait, enflamme les imaginations et on aime ça.
Avec plaisir. Geneviève ne lisait rien d'autre que des ouvrages scientifiques. Elle n'appréciait pas les romans car elle ne saisissait pas l'intérêt d'histoires fictives. Elle n'aimait pas non plus la poésie, celle-ci ne présentant aucune utilité. À ses yeux, les livres se devaient d'être pratiques. Il fallait qu'ils apportent un enseignement sur l'homme, du moins sur la nature et le monde. Elle n'ignorait néanmoins pas le rôle déterminant que certains livres pouvaient jouer sur les individus. Elle l'avait non seulement constaté chez elle et sa sœur, mais aussi chez des aliénés qui parlaient de romans avec une passion étonnante. Elle avait vu des folles réciter des poèmes et pleurer, d'autres évoquer des héroïnes littéraires avec une familiarité joyeuse, d'autres encore se remémoraient un passage avec un sanglot dans la voix. Là résidait la différence entre le factuel et la fiction. Avec le premier, l'émotion était impossible. On se contentait de données, de constatations. La fiction, au contraire, suscitait les passions, créait les débordements, bouleversait les esprits. Elle n'appelait pas au raisonnement ni à la réflexion, mais entraînait les lecteurs, les lectrices surtout, vers le désastre sentimental. Non seulement Geneviève n'y voyait aucun intérêt intellectuel, mais elle s'en méfiait. Aucun roman n'était donc autorisé dans le quartier des aliénés. Il ne fallait pas prendre plus de risques à exciter les humeurs.
Merci Victoria Ma, je vois sourire Brigitte Giraud.
Mais oui, parce que je me dis que c'est exactement ça, c'est-à-dire pourquoi on brûle des livres. Je repense aux nazis qui avaient différentes raisons de brûler certains livres. Il y avait bien évidemment les livres qui étaient écrits par des auteurs juifs, mais il y avait aussi les livres qui étaient trop communistes et les livres qui étaient trop poétiques, trop psychanalytiques et qui faisaient trop intimes et qui faisaient trop appel à l'imaginaire. Mmh. Donc ça, on le sait moins, mais je trouve que ça résonne vraiment avec ce que vient de lire Victoria.
Alors ce roman, Victoria Ma, est-ce qu'il est plus de 100 ans après le moment où ce jugement de Geneviève est censé être formulé? Est-ce que c'est votre petite vengeance à l'égard de ceux qui ont, ou votre grande vengeance d'ailleurs, à l'égard de ceux qui ont voulu priver, c'est vrai, les femmes de lecture, à cause du fameux bovarisme aussi, cette belle maladie?
Non, c'est pas une vengeance, mais c'est vrai que parler de littérature aussi était important, puisque en fait, on sait, c'est ce que Geneviève explique, c'est qu'elle sait les débordements que ça peut provoquer. Et en fait, lire permet de vous révéler à vous-même aussi. C'est-à-dire que ça permet de mettre des mots sur un sentiment ou un ressenti.
Quel cas de votre personnage de génie, qui a besoin des livres de Kardec pour mettre des mots sur son fameux don d'entendre les voix des esprits.
C'est ça. Ça permet de se rassurer aussi soi-même et de trouver une vérité qu'on cherchait mais qu'on n'arrivait pas à trouver quelque part. Bon, on en revient aux autodafés aussi. C'est toute l'importance en fait que représentent les livres et la littérature. C'est une façon de s'ouvrir et c'est une façon d'avoir le choix en fait. Plus on lit, plus on est cultivé aussi, plus on a le choix en fait de réfléchir, d'avoir des points de vue qui soient divergents, d'être beaucoup plus averti et beaucoup plus aguerri sur des sujets. Donc c'est pour ça qu'on brûle des livres.
Oui, car les romans sont aussi des instruments
et
de connaissance.
Plus on est dangereux.
Exactement. Ah, les femmes qui lisent sont dangereuses. Non, mais parce que le roman, c'est vrai qu'elle parle, elle oppose en fait les livres scientifiques et les romans, en disant les livres scientifiques apprennent des choses, c'est de la connaissance, mais on sait maintenant à quel point les romans aussi, et la fiction est un instrument de connaissance. Vous êtes d'accord, je suppose.
C'est là que ça commence à se passer, voilà. C'est là où ça devient intéressant, parce que, évidemment, ce qu'on appelle les personnages sont mis face à ce que la grande histoire et le rapport au collectif va générer dans leur vie intime. Donc c'est là que ça se passe vraiment, parce que nos vies, jusqu'à preuve du contraire, sont d'abord intimes, et elle se situe dans un contexte plus général.
Au niveau du genre, Victoria Ma, vous avez choisi d'introduire du fantastique aussi, de parcourir cette veine-là, la veine fantastique, avec ce personnage de génie donc, et de ses voix et de ses esprits. Et en fait, l'auteur et le lecteur lui donnent raison, puisqu'on y croit à ces personnages qu'elle voit. Ça, c'est venu tout de suite dans le livre, de se dire, voilà, on sait la Salpêtrière, c'est un hôpital, donc je vais un petit peu battre ça en brèche.
En fait, j'ai lu le livre des esprits au moment où j'avais découvert l'existence du bal des folles. Donc, je trouvais que ça tombait très bien pour plusieurs raisons. D'une, ça me permettait en effet d'amener un élément un peu extraordinaire dans quelque chose de très réaliste et de très concret aussi, puisque je m'inspirais de faits réels. Mais ça correspondait aussi parfaitement à l'époque, puisqu'en 1885, fin 19e, il y avait toute cette tendance, toute cette euphorie pour le spiritisme et les tables tournantes. Et Allan Kardec aussi a été très avant-gardiste, en fait, dans le livre des esprits qui a été publié en 1865, je crois. On a brûlé aussi beaucoup de ses ouvrages, puisqu'il disait qu'il n'y avait ni paradis ni enfer, que les femmes étaient les égales des hommes, qu'un avortement n'était pas grave, puisqu'un fœtus n'avait pas encore une âme. Donc toutes ces choses ont fait que, bien évidemment, il était extrêmement décrié.
Autodafé aussi.
Exactement, ben voilà, Allan Kardec, pareil. Et ça me permettait de toucher aussi le personnage de Geneviève au plus profond de sa blessure intime et refoulée. Donc c'était un élément narratif important. Ça me permettait d'évoquer non seulement le spiritisme, mais la spiritualité également, puisque au final, Geneviève se découvre une spiritualité qu'elle s'ignorait. Et de poser des questions sur ce monde invisible qu'on a toujours évoqué, qui est en fait, très établi en fait dans certaines cultures, mais un peu moins dans les nôtres aussi, où on a toujours cette frontière en fait qui est un peu floue et voilà, qui divise aussi les opinions et les avis. Et je voulais juste poser des questions et amener en effet un peu de fantastique dans quelque chose autrement trop réaliste. Ouais.
Il y a quelque chose qui vous réunit aussi, Brigitte Giraud et Victoria Mas, c'est le grand soin que vous mettez à décrire les corps et les corps dans leur lien avec le désir, c'est-à-dire les gestes et le désir. La sexualité est extrêmement présente dans votre livre, Victoria Mas, puisque d'ailleurs était liée avec toute la science de l'époque. En fait, quand on dit hystérie, on parle d'utérus. En fait, le corps de la femme est absolument central. On parlait de spiritualité là. On va en parler dans un instant avec vous, Brigitte Giraud aussi. Le corps de Livio et le corps peut-être de Magnus Hirschfeld. Quel enjeu vous mettez dans le corps de vos personnages, justement, Victoria Mas? En quoi c'était important de donner ce corps à lire aussi?
C'est une façon de les incarner de la façon la plus concrète possible, aussi d'avoir vraiment un physique qui accompagne une voix, une façon de parler, un esprit, une fêlure, une destination et un objectif aussi, puisque moi je voulais vraiment que à la fin du roman mes personnages ne soient plus les mêmes qu'au début, qu'ils aient vraiment traversé un bouleversement, qu'il soit psychologique, moral ou spirituel, on y revient. Et c'était, je les voyais en fait de façon tellement concrète que je voulais les incarner vraiment dans ces pages. Encore une fois, pour moi, ces femmes, on en a tellement peu entendu parler, on ignore tellement de choses en fait sur leur situation et sur leurs conditions que je voulais leur redonner, c'est ça, une voix et un corps.
Il s'agissait de lui donner un corps à Livio, Brigitte Giraud, justement. C'est un livre sur la parole, c'est un exposé oral sur l'estrade. Mais vous ne cessez, et c'est ce qui rend le texte aussi encore plus fort, de décrire comment les gestes en fait disent plus que les mots qui sont prononcés par Livio.
Oui, d'autant que Livio est adolescent et je pense qu'à 17 ans, ce qui est son cas, on est en terminale dans cette salle de classe, ce qui est très compliqué quand on fait un exposé, peut-être plus encore que ce qu'on va dire, c'est comment on apparaît dans son corps tout seul sur l'estrade devant 30 camarades et devant une adulte qui est l'enseignante et devant aussi cette fille qui est son amoureuse Camille. Ce qui est très compliqué pour lui déjà, c'est de savoir comment il va s'habiller, quel pull il met, est-ce qu'il met une écharpe, est-ce qu'il met pas une écharpe, est-ce qu'il se met du gel dans les cheveux, il a un petit bouton sur l'aile du nez, évidemment le jour où il doit prendre la parole c'est très compliqué. Et être debout sur une estrade, ça veut dire qu'il faut capter l'attention des autres, donc il faut faire des gestes qu'on n'a pas prévu de faire. Tout à coup il va s'exalter, il va déraper, la craie va lui échapper, donc il va se retrouver à quatre pattes avec le pantalon de taille basse. Il y a tout un tas de choses, je me suis beaucoup amusée aussi.
Oui, parce que l'auditoire regarde
n'a que ça à faire. Exactement. Non, que ça à faire, et l'exposé, voilà. c'est quelque chose de très particulier dans une salle de classe, parce que ceux qui ne font pas l'exposé sont au théâtre, ils sont au spectacle, ils n'ont que ça à faire pendant 45 minutes, de ricaner, de regarder ce qui va pas, de regarder la marque de la ceinture, la marque des chaussures. Et c'est une époque contemporaine qui dit aussi tout ça, le rapport à l'apparence. Et le moment de l'adolescence est ce moment idéal pour... et c'est très effrayant d'être seul, comme tout nu, devant les autres.
Et quand vous êtes-vous dit, je vais introduire justement, bon c'est présent dans plusieurs de vos livres, hein, ce rapport au corps, enfin est vraiment même central dans votre œuvre, mais voilà, il est en train de parler, je rappelle hein, pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant, il est en train, en fait c'est un exposé sur les autodafés, puisqu'ils sont en train de traiter du nazisme, et lui a choisi pour parler de l'autodafé, de parler d'une figure, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui a disparu, alors que Magnus Hirschfeld, c'est son nom, était aussi connu qu'Einstein ou Freud dans leurs disciplines respectives. Lui, c'était un médecin juif, pionnier de la sexologie, un des pionniers aussi de la lutte pour l'égalité homme-femme et pour le droit des homosexuels au début du XXe siècle, et qui a notamment lutté contre le fameux article 175 qui criminalisait l'homosexualité. Sa bibliothèque a été brûlée, il est mort en exil en 1935. Et en fait, c'est ce détour-là, ou ce fil-là, ce personnage-là, qui a été choisi par Livio, votre lycéen, pour parler de l'autodafé. Et ce que vous racontez, c'est cet exposé, et toute l'attitude de ceux qui écoutent, et de la professeure, Madame Martel, qui voit parfois qu'elle est dépassée, qui voudrait reprendre le contrôle, mais elle ne peut pas, parce que il enflamme aussi son auditoire. Quand est-ce que vous êtes dit, il faut que je parle de Magnus Hirschfeld? En même temps, il faut que je donne à voir et à entendre mon personnage contemporain. il faut que je dose, parce qu'il faut, il y a un savant équilibre. Il ne faut pas que ça bascule dans le spectacle, parce qu'il faut qu'on entende l'histoire de Magnus Hirschfeld. Mais ce n'est pas non plus un roman historique.
Non, je voulais mener de front ces deux voies. C'est-à-dire, je voulais surtout parler de notre monde contemporain, aujourd'hui, comment l'histoire joue dans le cerveau et le destin de jeunes personnages. Ce que je voulais dire, c'était que ce jeune garçon, Livio, qui a 17 ans, à partir du moment où il va trouver le soir dans sa chambre, en faisant des recherches sur les autodafés, il va rencontrer la figure de Magnus Hirschfeld, ce fameux médecin, il va se rendre compte qu'il est possible pour lui qu'il y a un endroit où il pourra vivre, parce qu'il y a eu d'autres personnes avant lui, comme lui, qui sont homosexuels, et il se dit qu'il peut marcher dans leur pas, dans le pas de cet aîné qui a vraiment ouvert la voie, puisque c'était vraiment un pionnier pour la lutte contre la discrimination de l'homosexualité. Donc c'est un livre qui parle aussi de qu'est-ce que l'homophobie ordinaire, comment se fait-il qu'en parlant de Magnus Hirschfeld dans une salle de classe aujourd'hui, ça crée un dérèglement tel que ce garçon va devoir disparaître.
Oui, parce que c'est le début, c'est vrai, voilà. Je ne l'ai pas rappelé.
On sait qu'il a disparu. On sait très vite qu'il disparaît parce que ce qu'il va raconter va déclencher une suite de conséquences totalement imprévues, totalement imprévisibles, qui va le mettre dans une situation où il ne pourra pas assumer ce qu'il a déclenché. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment ça, c'est-à-dire cette bascule entre lui en train de raconter et de faire ce qui peut ressembler à un coming out et la figure de Hirschfeld qui est là pour ouvrir la voie, qui est là pour le protéger, qui est là pour l'encourager, qui est évidemment un
exemple.
Qui est
une dimension en fait de l'histoire, même les exemplats de l'histoire. On faisait, quand Plutarque écrit les vies parallèles, c'est toujours trouver des exemples de conduite. Cette dimension de l'histoire vous intéresse aussi?
Voilà, précisément.
L'exemple à suivre.
C'est peut-être ce qui m'intéresse davantage. Quand on parle de résistance, c'est un mot qu'on entend énormément, savoir qu'est-ce que c'est que la résistance, qui ont été les vrais résistants, ceux qui ont résisté jusqu'au bout, ceux qui ont sacrifié en quelque sorte leur vie et la vie de leurs proches. Et ça m'intéressait énormément que Livio puisse s'exposer aussi dans cette dimension-là. Parce que si j'ai mis cet exposé, enfin aujourd'hui, dans une salle de classe, c'est que pour moi, une salle de classe représente une micro-société. Voilà, c'est-à-dire qu'on lâche comme ça un sujet, une question de société, et en ce moment, c'est tous les deux jours, il y a une question cruciale de société qui est lâchée dans notre monde contemporain. Donc lui, c'est la question de les autodafés, Magnus Hirschfeld, de l'homosexualité, etc. Et là, les réactions se mettent à arriver de façon totalement disproportionnée, désordonnée. Et comme dans une société, la salle de classe va montrer de l'empathie, va montrer de l'hystérie, va montrer de l'hostilité, de l'indifférence, et il y a des lignes de force qui vont se créer. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment, en mettant 30 personnes ensemble dans un même bocal, si je peux dire, comment tout ce petit monde va se neutraliser, va s'opposer.
Mais par le biais de l'histoire.
Par le biais d'une
figure historique.
Voilà, sans jamais, lui ne parle pas de lui, c'est comme ça. Je disais tout à l'heure. Ouais. C'est simplement par le biais d'une figure historique.
Oui, c'est ça qui est très très habile. Ouais. Voilà, il ne dit jamais je.
Non, il ne dit jamais
enfin,
je.
Enfin, il dit je voudrais vous dire ça, etc. Il y a tout un jeu aussi scénique et rhétorique, mais il ne parle pas de lui. Oui. En fait, il parle de lui à travers une figure historique.
Tout en essayant de ne pas prononcer le mot homosexualité aussi, ce qui est un autre tour de force.
On va vous écouter, Brigitte Giraud, justement, lire un extrait de Jour de courage. Voilà, beau titre. Et on va se rendre compte de ça.
Livio dit que Hirschfeld était comme eux. Il n'y avait pas cru à ces Allemandes qui voulaient absolument guerroyer. D'autant que les soldats, les hommes, les vrais, et là il se rongea à la peau du pouce, s'étaient laissés abuser. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ils n'avaient pas décelé les femmes sous l'habit militaire. C'était au moment de les porter en terre, après que certaines avaient été tuées sur le champ de bataille, qu'ils avaient découvert un corps de femme sous les couches de vêtements. L'image était belle, et Livio prit le temps de la laisser planer un instant, comme en signe de recueillement, alors que certains hochaient la tête pensivement. Il prononça le mot « travesti » sans en avoir l'air, et l'astuce passa comme une traîne légère, convoqua en chacun d'entre eux la nostalgie des déguisements rangés dans leurs armoires d'enfants, les panoplies de pompiers, de pirates ou de sirènes, qui leur avaient prodigué il n'y a pas si longtemps la possibilité de croire en une autre vie. Quelqu'un a demandé si cela avait été également le cas dans les tranchées de l'armée française. Est-ce qu'il y avait eu des femmes ? On leur avait toujours dit qu'elles étaient restées à l'arrière, à l'usine et dans les champs. Livio était déjà ailleurs. Il pensait à cette chose incroyable que Hirschfeld avait accomplie en collaborant avec le responsable de la police de Berlin pour que fût créé un laissez-passer de travestis à l'usage des personnes qui souhaitaient s'habiller avec les vêtements du sexe opposé sans qu'elles soient inquiétées. Livio avait ralenti l'allure, il sentait qu'on l'écoutait, ce qui le rassurait en même temps que ça l'effarait. Il voulait faire une blague pour faire redescendre la pression, mais rien ne lui vint que cette histoire de laisser-passer qu'il ne pouvait pas se permettre de détailler dans une salle de classe. Alors il fit cette tête que Camille aimait, celle du garçon qui joue l'innocent, qui se frotte les mains parce qu'il a froid et qu'on a envie de réchauffer, de prendre contre soi. Camille s'attendrissait et elle s'en voulait. Plus elle le regardait et plus elle l'aimait, même si elle commençait à comprendre et que cela l'effrayait.
Merci Brigitte Giraud pour cet extrait de Jour de courage. Donc on voit que ce livre sur l'histoire, ce livre sur la parole, est un livre sur le corps et sur la gestion physique de la parole et tout ce que la parole ne dit pas, c'est-à-dire les gestes, ce que les gestes disent. Le grand paradoxe, c'est que vous le dites par des mots, en fait. Est-ce que l'histoire est faite, et la question se pose aussi à Victoria Mas, est-ce que le roman, quand il s'empare de l'histoire, permet de personnaliser l'histoire? C'est-à-dire que, est-ce que l'histoire permet de dire encore plus « je », alors même qu'on ne parle pas de soi?
Je pense qu'il y a un élément qui est important à partir du moment où on parle d'histoire au travers d'un roman, c'est l'empathie, en fait. Parce que on va amener des personnages, on va les incarner. On sort du factuel et du qu'on pourrait retrouver dans un article, par exemple, ou dans un essai, ou dans quelque chose de très documenté. Là, on amène des émotions, on amène des sentiments, on amène des personnages pour qui on va éprouver plein de sentiments différents. Et donc je pense que ça permet de retenir d'une, d'autant plus l'attention, mais de deux, de prendre encore plus conscience de ce qui a pu se passer, je pense.
Moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est en m'approchant le plus possible du docteur Hirschfeld, c'est de voir comment il était devenu qui il est devenu. C'est-à-dire ce médecin qui était lui-même fils de médecin, qui a d'abord œuvré au front, il a soigné les soldats blessés à l'arrière, donc il était très proche de la détresse humaine. Ensuite, il a créé un cabinet à Berlin, où il recevait notamment de jeunes homosexuels, et l'un de ses patients s'était suicidé. Et je crois que c'est suite au suicide de l'un de ses patients qu'il a commencé à vouloir se battre, à vouloir œuvrer, à vouloir faire le bien, si on peut dire. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le parcours de quelqu'un, jusqu'où il a été prêt à aller pour être déterminé dans la construction de son œuvre.
C'est aussi une leçon alors qui est donnée justement à ses élèves par l'intermédiaire de Livio. Une leçon de courage, c'est le titre, hein,
Jour de courage. Oui, peut-être bien une façon de dire qu'il faut peut-être essayer d'assumer, d'être qui on est malgré tout. C'est ce que veut dire aussi le mot coming out ou jour de courage. C'est-à-dire comment, à un moment, se révéler, dire qui on est. Et un coming out, ce que j'ai voulu regarder de très près, c'est cette chose-là, c'est comment il faut être capable, une fois que les choses sont dites, d'assumer que chacune des relations et chacun des liens qu'on entretient avec toutes les personnes, ces liens vont se modifier. Ça veut dire que c'est le début d'un long parcours. Et ce Hirschfeld qui continue, qui va créer cet institut, qui crée ce comité scientifique, qui s'entoure des plus grands intellectuels de l'époque, qui part quasiment en croisade dans le monde entier pour délivrer des conférences et qui va finir par en mourir, puisque son travail, le travail de toute une vie aura été saccagé. Un parcours tel que celui-ci, moi, me donne du courage par rapport à plein d'autres choses, le courage d'écrire, de vivre, d'affronter, de traverser. Et ces figures historiques, quand on les personnifie ou personnalise, c'est quelque chose qui nous permet d'être debout en tant qu'être humain, tout simplement.
Oui, donc en fait, l'histoire nous permet de dire « je », même sans jamais le dire, de trouver, je dirais, on pourrait appeler ça une forme d'âme sœur ou des destins sœurs, des destins frères, pour nous aider à dire qui l'on est, pour nous affirmer aussi comme individu face justement au danger contemporain.
Mais oui, c'est intéressant que ce docteur Hirschfeld ait été l'un des premiers sur la planète à œuvrer pour l'égalité homme-femme. C'est ce dont on parle aussi ici autour de cette table par rapport au livre de Victoria, mais c'est extrêmement émouvant. C'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi les femmes ne pouvaient pas aller à la guerre, est-ce qu'elles en avaient véritablement envie, comme elles n'avaient pas le droit, il fallait s'habiller en homme, etc., etc. Il est allé très loin dans la tentative de compréhension des femmes.
Et même, oui, effectivement, la thématique est là aussi dans votre livre, puisque Eugénie veut vivre comme, enfin, même pas comme les hommes, en fait, elle veut vivre comme tout être humain, homme ou femme, pourrait vivre.
Pour elle et par elle, et en effet, on parlait du jeu, je pense que Livio et Eugénie ont cela en commun, c'est déjà d'affirmer qui ils sont en société, d'affirmer leur propre identité et de vouloir juste en fait faire les choix qu'ils ont envie de pouvoir faire, de choisir leur destin, leur liberté.
Et vous sentez, on terminera là-dessus, vous avez fait quelques tournées certainement en librairie, justement la réception sur ce plan-là, c'est-à-dire de l'exemple. Hein, et là, je prends ce terme qui est lié à l'histoire, hein, les grands récits historiques qui étaient destinés aussi à éduquer. L'histoire aussi est faite pour éduquer, pour initier, pour nous permettre peut-être d'être un peu meilleurs, un peu plus courageux aussi. Vous sentez, Victoria Mas, que les lectrices, les lecteurs sont sensibles à cette question, l'égalité homme-femme, qui est une question extrêmement contemporaine, mais que vous traitez, vous, par une plongée en arrière dans le temps, quoi.
Je pense que parler du passé, en effet, permet de mieux appréhender, de mieux comprendre le présent. Les lecteurs, les retours qu'ils m'ont fait sont sensibles à cette question d'égalité homme-femme, mais pas que. Il y a également les conditions d'internement, le rapport à la folie, qu'est-ce qu'on considère être...
Non, mais sur la question homme-femme, voilà, le fait de choisir de traiter une problématique extrêmement contemporaine, elle l'a toujours été, mais elle l'est. Là, on assiste vraiment à une libération de la parole, mais de traiter de cette question-là par le truchement d'un roman historique qui se passe il y a plus de 100 ans.
Je pense que les gens sont désolés de cette société patriarcale, en fait, de fin 19e, puisqu'en effet, elle n'est pas si éloignée de nous. Il constate qu'il y a évidemment eu des améliorations aujourd'hui, mais que l'enfermement, en fait, n'est pas fait que de briques non plus, et que ça peut être un enfermement moral, verbal, et d'où la nécessité de rester vigilant.
Et Brigitte Giraud, l'histoire, justement, prendre le biais historique pour parler d'aujourd'hui, ça permet de plus, j'allais dire, je vais utiliser le mot à dessein, d'ailleurs un peu familier, mais comme romancière, de se lâcher plus, justement, d'être plus fort, d'être plus puissant.
Oui, en faisant un grand détour par l'ailleurs, par le différent, en parlant d'un homme quand on est une femme, en parlant du début du XXe siècle, quand on vit le début du XXIe. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de lecteurs et notamment d'enseignants qui se posent la question de comment transmettre. Comment transmettre l'histoire, mais comment transmettre, comment être, comment apparaître auprès de jeunes gens aujourd'hui. Que leur dire? Comment les rassurer, comment les éveiller et faire qu'ils deviennent des adultes éclairés? C'est une question compliquée au début du XXIe siècle pour des enseignants.
Et qu'il sera toujours. On écoute votre choix musical pour terminer en beauté cette émission, Brigitte Giraud. Vous avez choisi Small Town Boy de Bronski Beat. Alors pourquoi ce choix?
Voilà. Bon, déjà parce que le morceau est magnifique, parce que Small Town Boy raconte l'histoire d'un garçon qui est gay et qui est en quelque sorte chassé de chez lui dans une petite ville anglaise. Il va prendre un train et c'est le début d'une liberté possible, et en même temps on sent que c'est aussi un impossible arrachement, parce que les choses évidemment ne sont pas si simples que ça.
Merci beaucoup Brigitte Giraud, merci beaucoup Victoria Mas.
Merci. Merci.
Je rappelle le titre de vos ouvrages, Le bal des folles, Victoria Mas est chez Albin Michel, et Jours de courage de Brigitte Giraud chez Flammarion. C'était le temps des écrivains avec Anne-Catherine Lochard et la complicité de Tsolak Paloyan, à la technique Lidvin Caron, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Vous savez que vous pouvez commenter sur Twitter, sur Facebook et podcaster pour la réécouter à l'infini sur franceculture.fr cette émission, en compagnie de Victoria Mas et de Brigitte Giraud. Et nous écoutons donc Small Town Boy de Bronski Beat.